RMC, cours numéro 1.
Voilà, c'est fini. On aurait pu utiliser cette chanson de Jean-Louis Aubert pour ce nouvel numéro de cours numéro 1, votre rendez-vous quotidien pendant la quinzaine de Roland-Garros, pour vous accompagner, pour débriefer cette journée de lundi. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonsoir.
Et Eric Salio.
Salut à tous.
Le voilà, c'est fini, vous le validez, pour les adieux de Gaël Monfils qui a disputé son dernier match battu au terme d'un combat face à Hugo Gaston en 5-7 et un 6-0 pour terminer, une bulle malheureusement.
Ouais, je dirais presque le cinquième set, presque anecdotique, parce que le match ne se résume pas à ce cinquième set. Mais Hugo Gaston a joué sa partition. Il a voulu aussi, lui aussi, il est aussi un petit peu roublard comme Gaël. Donc ils se sont tournés autour pendant 4-7. Et puis Gaston, Hugo Gaston avait un peu plus d'essence dans le moteur que Gaël sur ce cinquième set. Et ça s'est vu. Et puis je pense qu'au fur et à mesure que le score se avançait dans le cinquième, je pense que les images devaient défiler dans la tête de Gaël. Donc il était plus vraiment là au milieu du cinquième.
On se le disait, Eric, Gaël ne pouvait finir qu'en 5-7.
Oui, j'avais révisé mes stats avant, donc j'avais tout en tête. Il a disputé ce soir son 17e match en 5-7, ce qui est juste énorme. Mais c'est vrai qu'on a des souvenirs magnifiques de ces bastons contre des mecs comme Murray, contre Baez. Il y a 3 ans, avec l'anecdote fabuleuse où Moscato et Charvet quittent le court à 2-7 partout pour aller bouffer une entrecôte à Porte d'Auteuil et qu'ils entendent les clameurs. Mais voilà, c'est Gaël. Il nous surprend, il nous a surpris jusqu'au bout parce que franchement, à 2-7 partout, Sarah, je pense qu'il y croyait. Il se dit, je le tiens, le petit Hugo. Mais Hugo, je pense qu'il était intelligent, il a lâché le quatrième. Et c'est vrai que Gaël manque de réussite au début du 5 et après ça défile. Mais la balle de match, ouais, Sarah, t'as tout résumé, il balance un parpin qui sort de 4 mètres. Et bon, après, il y a eu une cérémonie super sympa. Et ses premiers mots, ils m'ont foutu les poils parce qu'on lui a donné le micro.
Eh bien écoute, Eric, on va écouter Gaël Monfils. Et puis on revient derrière sur cette cérémonie. Gaël Monfils, l'hommage sur le court central, Philippe Châtrier.
Bonsoir tout le monde. On y est. Merci, je vous aime tellement. C'est sûr que je reviendrai vous redire encore merci. Mais honnêtement, Roland Garros, je vous aime, je vous dois tout. Et je vous dis à un de ces jours et merci pour tout ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup, Roland Garros.
Gaël Monfils.
Ce qui m'a ému, c'est le voilà. On y est. Là, tu te dis, tu prends une claque dans la gueule et son discours est génial, je trouve vraiment. Et t'as vu, il avait la tête en bas, il balayait la terre battue. Tu sens qu'il y avait de l'émotion, mais il n'oubliait personne. Les gros plans sur son épouse étaient terribles, quoi. Je crois qu'il n'y avait pas un œil sec au Châtrier.
Oui, non, c'est vrai que Gaël a oublié personne. Il a commencé, on l'a entendu, par ses parents, parce que c'est vrai que lui qui venait des îles de s'expatrier à 13 ans sur le continent, 13 ans, c'est jeune, rentré en Pôle France, comme on dit, en sport-études. Quand on est un tout petit garçon comme ça, il faut vraiment avoir une sacrée passion. Et puis, moi, ce que j'ai aussi noté, c'est qu'il a remercié ses coachs de l'avoir laissé se tromper, de l'avoir laissé essayer, puis surtout il dit de l'avoir laissé exprimer son caractère et son tennis, parce que c'est vrai qu'on a tous parfois on se ronge les ongles, on dit non mais Gaël, mais t'aurais dû le faire, mais pourquoi tu nous as fait tant de clowneries, mais si t'étais resté dedans, mais je pense qu'en fait Gaël était comme ça, il avait besoin de jouer comme ça, et ce message montre finalement que s'il est là aujourd'hui, alors on pourrait refaire sa carrière, on pourrait dire peut-être qu'il est passé à côté d'un grand titre, parce que peut-être que des 4 mousquetaires qui étaient sur le court, peut-être, c'est même sûr, je pense que c'était celui qui avait les meilleures capacités athlétiques de gagner un grand chelem. Mais peut-être que lui, gagner un grand chelem, c'était presque secondaire que de faire vivre 20 000 spectateurs dans un stade et les faire vibrer. Je pense que c'est ça, sa victoire à lui ou ses victoires à lui. Et en remerciant ses coachs de l'avoir laissé jouer comme ça, ça montre bien que voilà, sa motivation profonde. D'ailleurs, je pense que les années Covid pour lui ont été terribles. Et il l'a dit, il aurait arrêté. Je pense que Elina Svitolina y est pour beaucoup dans le fait de l'avoir poussé à continuer et de passer au-delà du Covid. Parce que lui joue dans un stade vide, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, il a oublié personne et en plus il y a des deuxièmes lectures dans chacun de ses remerciements.
Oui, non, mais Sarah a tout à fait raison. Et nous, en tant que journalistes ou consultantes, on réagit de manière égoïste parce qu'on aurait aimé partager une victoire en chelem. Et parfois, moi, je quittais les grands chelem, mais je lui en voulais. J'ai toujours pas compris sa demi-finale contre Djokovic à l'US Open. Je lui en veux d'avoir pris 6-0 contre Murray, ici à Roland, en 2014. Mais moi, je suis qui pour lui en vouloir ? Il nous a offert du bonheur. Le clip était génial, très bien fait par la FFT. Et c'est là qu'on a compris qui était Gaël. C'était un artiste. Il fallait le laisser s'exprimer. Alors oui, il n'a pas remporté des 7 d'or, mais il a gagné le cœur de tous les Français parce qu'il va laisser une trace monumentale.
Dans le monde entier. Voilà. Dans le monde entier, il remplit les stades. Gaël Monfils est connu dans le monde entier. Pas en tant que joueur de tennis, mais en tant que celui qui va vous faire vibrer. Et je pense que j'espère qu'il gardera encore la forme pour faire quelques exhibitions, parce que je pense qu'il sera attendu. Mais voilà, ça a été un Gaël qui était souvent là où on l'attendait pas. Et puis quand on l'attendait, il nous a souvent mis les nerfs. Voilà.
Sur le côté showman, parce que c'est ce qu'il définit, vous voyez un héritier aujourd'hui ou pas ? Ou il est tellement unique comme ça ? Je vous vois faire les gros yeux, Sarah et Eric, parce que... Ouais, c'est en fait, oui.
Arnaud, on est au royaume des data, tout est analysé, tout est étudié. Tu crois qu'un mec comme Sinner, il peut être l'héritier de mon fils ? Mais bien sûr que non. Alors, il y a Alcaraz, effectivement, qui est un instinctif, comme Gaël. Mais non, je crois que c'est dommage. On aurait pu avoir un photographe à côté de nous. Il nous aurait dit, mais Gaël, il m'a fait gagner un pognon de fou. Parce que, non, mais c'est vrai, il y a des clichés fantastiques. Moi, parfois, quand je quitte des grands chelems, je veux souvent voir mes copains photographes me disant, oh, j'ai des plaques de Gaël, c'est fabuleux, fabuleux. Elle ne me disait jamais ça de Sinner ou d'autres.
C'est vrai qu'il a su toujours préserver ce côté, je ne sais pas, mais grand enfant pour s'amuser. Quand tu disais ça, Sarah, pas de public, pas d'intérêt. Lui, il voulait s'amuser avec les gens, la communion, le partage.
Mais oui, et d'ailleurs, je le soupçonne, vraiment. Je soupçonne parfois d'avoir joué des 5-7, mais nous avoir endormis sur les premiers sets. Et je pense que ce soir, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut être au-dessus. Et pourtant, il aime bien jouer le scénario un peu je suis pas là, j'ai un peu mal. Mais dès que Gaël commence à s'incliner, à mettre les mains sur les genoux, tu sais, c'est comme Superman quand il va se transformer, et ben c'est ça. Mais je soupçonne d'être allé souvent en 5-7 juste pour le public. Mais j'en suis certaine.
Et ce soir aussi ?
Ah ouais, ouais, parce que le début du match, c'est pas Gaël. C'est pas sérieux. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. Donc, je dînais. Pas loin du stade en regardant le match et avec mon mari Olivier Malcor et Quentin Alice, et je dis bon là ça va faire 3-7. Ils disent mais alors là on te parie notre maison qu'il va y avoir 5-7, il va endormir tout le monde, et on l'a eu. Alors voilà, on aurait peut-être préféré que ce soit lui qui sorte vainqueur de ce duel là, mais je crois qu'il s'est fait avoir à son propre jeu ce soir quand même.
Et du coup, tu disais, mention pour Hugo Gaston, Eric, qui a très bien joué le coup, qui semblait quand même être aussi en difficulté physique et qui finalement passe ce premier tour.
Mais il va rester dans l'histoire, hein, puisque jamais un Français n'avait pu battre Gaël ici à Porte d'Auteuil, donc c'est une vraie perf. Il était presque gêné d'ailleurs quand il a parlé au micro en premier, mais il s'est presque excusé. Mais bon, l'atmosphère était compliquée pour lui, parce qu'à partir du moment où Gaël était dans le dur, qu'il y avait 2-7 d'avance pour le Toulousain, les spectateurs voulaient une rallonge, voulaient une prolongue. Et ça n'a pas été simple à gérer pour Hugo. Parce que quand il va au vestiaire à 2-7 partout, qu'il se regarde dans la glace, je ne sais pas ce qu'il pense. Peut-être même qu'il insulte le public parce que c'était pas sympa l'ambiance. Mais bon, c'est un derby, pas comme un autre quand tu as Gaël Monfils en face de toi sur le Châtrier, évidemment.
Bon, ça y est, ils sont tous partis, les mousquetaires. C'était le dernier. On a vu, ils étaient là, Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, et ça y est. Alors Gaël n'a pas totalement fini sa carrière, puisque c'est son dernier Roland-Garros, mais il y aura encore une suite jusqu'à la fin de l'année. Mais ça y est, nos quatre mousquetaires sont partis à Roland, Sarah.
Oui, alors ils sont encore vivants, hein, qu'on se rassure. Ils vont tous très très bien. Mais effectivement, c'est une génération à qui on a reproché tellement de choses. Et pourtant, quand on voit qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là, et ben, on se rend compte qu'ils ont fait de très, très grandes choses dans le tennis. Ils nous ont apporté des finales, ils ont apporté un certain nombre de demi-finales de Grand Chelem, des Master 1000, des Coupes Davis. Et puis, le fait qu'ils aient été quatre, finalement, c'est que quand il y en avait un ou deux qui n'étaient pas dans leur meilleure forme, et bien, il y en avait toujours un pour arriver en deuxième semaine de Grand Chelem. Donc, c'est eux qui nous ont tenus sur les 15 dernières années. Et voilà, on allait quasiment au bout, ou en tout cas en deuxième semaine de Grand Chelem, parce qu'il y en avait toujours un des quatre. Et puis avec quatre tennis différents, quatre personnalités différentes. Et voilà, il prouve qu'on peut jouer au tennis avec des gabarits, avec des techniques, avec des motivations différentes. Et ça a représenté vraiment la formation à la française. Donc oui, là, il y a vraiment une page qui se referme. Et je crois qu'on va vite se rendre compte qu'ils vont nous manquer.
Tiens, petit jeu, juste avant de passer à la suite, on a parlé des quatre mousquetaires. Quelles qualités on prend dans chacun de ces quatre joueurs pour en faire notre super ? Bon, Richard, je crois que c'est tout trouvé, Richard Gasquet.
Bah Louis, le revers, évidemment.
Voilà. Gilles, le cerveau ?
Science du jeu, ouais, la stratégie.
Ouais. J'oublierai jamais ce match qu'il avait livré à Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Djoko gagnant 5, et à la fin, on regarde la feuille de stats, Djoko avait commis 100 fautes directes. C'est une stat complètement hallucinante parce que Gilles le jouait à la perfection, balle cotonneuse au centre du court. J'ai cru que Djoko allait devenir fou, donc oui, Gilles, la stratégie.
Et là, entre Gaël et Joe Wilfried, qu'est-ce qu'on garde ?
Je dirais que Joe, c'est son coup droit et Gaël, c'est sa capacité athlétique, sa force, sa qualité de couverture du terrain. Donc avec ça, on en aurait gagné les grands chelems si on avait, avec 4, si on en avait fait 1, mais je crois qu'on enterrait Nadal.
Oui, exactement. Allez, tu parlais de Coupe Davis. On va se souvenir d'un monsieur qui nous a fait un petit peu mal, qui a gagné Roland-Garros en 2015 et qui a fait ses adieux aujourd'hui. C'était sur le court Simone Mathieu. C'est Stan Wawrinka qui a donc lui aussi... C'était la journée des adieux, hein, journée des hommages. Stan Wawrinka a beaucoup pleuré, Eric. Stan Wawrinka, là aussi, sacré personnage, le Suisse qui a eu une relation. D'ailleurs, on va l'écouter un petit peu avec le public, parce qu'effectivement, cette rivalité en Coupe Davis, parfois peut-être incompris aussi par ce public parisien, et il l'a dit aussi. Hein. Et là, aujourd'hui, Wawrinka a dit « Le public et moi, on se comprend, on l'écoute ». C'était juste après sa défaite contre De Jong sur le Simone Mathieu.
Même si j'ai toujours eu du soutien, j'ai toujours eu un bon feeling avec le public, je pense, entre 2014 et 2015-2016, c'est là où vraiment j'ai réussi à connecter avec le public français. Je pense que moi, d'un côté, et le public aussi, il a fallu un peu de temps pour me comprendre, pour savoir comment j'étais, et puis pour vraiment avoir envie de me soutenir à ce point-là. Pour moi, c'est sûr que toutes ces dernières années, elles ont été... pas que à Roland-Garros, dans les autres tournois en France, elles ont été exceptionnelles. Et comme tu dis, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, j'entends ce que le public essaye de m'encourager, ils essaient de me soutenir, oui, moi, je me sens à la maison.
Sarah Standeman, un joueur incroyable, on parlait de revers avec Richard Gasquet juste avant, mais là, le revers de Wawrinka, c'est quelque chose, joueur aussi exceptionnel.
Bon, exceptionnel, l'adjectif n'est pas évident parce que je crois qu'il faut quand même se rendre compte que ce joueur a réussi à aller chipper trois grands chelems dans cette décennie où tout était raflé par Djokovic, Federer et Nadal, mais surtout que les trois titres qu'il gagne, 2014, 2015, 2016, il bat en finale à chaque fois un numéro un mondial. Deux fois Djokovic, une fois Nadal. C'est dire à quel point ce qu'il a réussi à faire est au-delà de l'extraordinaire, parce qu'il fallait être plus qu'extraordinaire pour réussir à c'est aller shipper un grand chelem à ce trio, avec Murray aussi à un moment qui était dans le quatuor. Et puis ce tennis qui était de puissance et en même temps... De toucher, c'est-à-dire qu'il sentait tellement bien le jeu, puis toutes les surfaces, le dur, la terre, et puis comme il est francophone, forcément, on avait de l'affection pour lui.
C'était presque, moi je trouvais un peu dur, on parlait du Big Four avec Murray, et ça mettait un peu de côté Wawrinka, Eric, alors que lui il était là, et en plus, il était dans l'ombre d'un compatriote qui prenait de la place, Roger Federer.
Oui, mais il a toujours accepté d'être à l'ombre. Hein. C'est un garçon qui est issu d'une famille, c'est pas son père, sont d'origine polonaise. Hein, donc il y a une modestie chez ce garçon qui est juste extraordinaire. Mais modestie, ça ne veut pas dire qu'il subissait les événements. Il a attendu son heure à chaque fois. Et comme Sarah l'a dit, Iba Nadal à Melbourne. Nadal était un peu blessé ce jour-là, mais la manière dont il détruit Djoko à Paris et à New York. Parce que New York, moi, je m'en souviens de cette finale, parce qu'on était en deadline, donc là, je me frottais les mains, parce qu'il est passé minuit, moi, je peux aller sur le court. J'ai jamais pris autant de plaisir sur un court, avoir une finale de Schlem, parce que ça jouait merveilleusement bien. Non, le seul regret pour Stan, souvent, je lui en parle, c'est qu'il nous ait piqué la Coupe Davis à Lille, ça, je lui en veux un petit peu. Mais, et tu vois, on y revient à cette finale de Lille, parce que ce qui nous a manqué à Lille, c'est le match 5 entre Stan et Gaël. Et je pense que ça aurait pu être un monument de tennis. Donc voilà, on a raccroché les deux, on va sécher nos larmes, mais on perd deux immenses champions, deux immenses ambassadeurs de la petite balle jaune.
Et pareil, Wawrinka continue encore jusqu'en fin de saison, probablement balle, hein, évidemment à la maison, donc ça veut dire pas à Paris, la Défense Arena. Oui. Tu lèves le doigt, Eric.
Oui, parce qu'avant balle, il jouera Lyon. Qui se disputera dans la nouvelle salle, la
LDLC Arena.
Voilà. Et parce que, pour tout vous dire, je suis allé le saluer quand il est sorti de la salle d'interview. On s'est tapé dans la main parce que, bon, voilà, ça fait. C'est une récente travail, Stan. Moi, je le faisais après chaque interview en Schlem parce qu'il parlait français. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, donc, on ne te reverra plus en France. Il m'a dit, mais si, je vais jouer Lyon. Et d'ailleurs, il retrouvera aussi Gaël Monfils. Donc, pourquoi pas un Monfils Wawrinka au premier tour à Lyon, et ce serait une fantastique affiche pour le nouveau tournoi lyonnais qui se déroulera donc juste avant le Masters 1000. Non, après il y a Bâle et après il y a la Défense Arena. Octobre.
Voilà pour ces journées d'adieu. On va parler des Français qui continuent. Ils étaient 8 engagés aujourd'hui à Roland-Garros avec notre duel franco-français qui était sur le central. Bon, entre Hugo Humbert et Adrien Manarino, là, scénario plutôt logique, Sarah, Hugo Humbert face à Adrien Manarino, on sait que la terre, compliquée.
Oui, je pense qu'on connaissait le résultat avant même l'entrée sur le court. On sait l'aversion, hein, et je ne trahis aucun secret, l'aversion d'Adrien Manarino pour la terre battue. Et puis, je pense qu'en plus, comme il le fait, à un quart d'heure du match, même une heure, je pense qu'il ne savait même pas contre qui il allait jouer. Donc voilà, après Hugo Humbert, il a aussi plus d'objectifs ici à Roland-Garros, même si Adrien Manarino menait dans les confrontations 3-1. La victoire d'Hugo Humbert sur son compatriote était déjà à Roland-Garros. Donc voilà, un match à sens unique.
Et puis on sait, ça sera un Français au troisième tour, puisque le vainqueur joue Quentin Lys. Donc c'est Quentin Lys, Hugo Humbert. On aura un Français au troisième tour. Donc ça, évidemment, encore une rencontre franco-française.
Non, mais ça se prend dans le contexte actuel, ça se prend. J'ai juste un petit coup de gueule. Je me demande si ils sont pas trop pénés dans la prog. Franchement, le Humbert Manarino ne méritait pas le central. Et vu la qualité du match entre Wawrinka et De Jong, je pense que ça méritait le central.
Oui, mais après, tu as deux Français. Donc peut-être qu'on pensait aussi que le match serait un peu plus accroché, mais bon, il a été véritablement à sens unique. Et puis, comme les deux matchs féminins qui ont précédé le duel franco-français ont été extrêmement vite, hein, puisque Iga Świątek et qui étaient d'autres, aidez-moi,
Rybakina.
Bon, elles ont joué leur partition, hein, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées dans le tournoi comme elles le font, c'est-à-dire en laissant que des miettes. Donc c'est vrai que la programmation du central pouvait paraître un petit peu faiblarde aujourd'hui, oui.
Ça passe pour Vandaché, ça passe pour Rinderknecht. En revanche, ça casse pour Terence Sattmann et deux femmes aujourd'hui. C'était deux wildcards, Léolia Jean-Jean et Sarah Rakotomanga. Vous vous arrêtez sur un de ces perdants, Terence Sattmann.
On se met à la place de Terence parce qu'il a craqué mentalement alors qu'il menait 5-2 au troisième set.
Perdu contre Kokkinakis et il est à 2 points du match.
Contre Thanasi Kokkinakis, il mène 5-3, 30-0, il croit que c'est fait. Et puis non. Donc il reste toujours à 0 victoire en Grand Chelem et je pense que ça l'a tendu hein, au moment de porter les stockades, mais c'est dur à avaler. C'est dur à avaler pour lui. On se met à sa place parce qu'il est, c'est un mec qui est en pleine progression et malheureusement il n'arrive pas à scorer en Chelem.
Ce mardi, il y a un programme, on va en dire un mot, absolument exceptionnel. D'abord, les deux numéros 1 mondiaux sur le central et deux perdants aussi de la finale de l'année dernière. Yannick Sinner, ça sera en soirée contre Clément Tabur. Et puis, Arina Sabalenka ouvrira le bal sur ce court central. Et puis, Loïse Boisson qui fera son grand retour à Roland-Garros. Et une première sur Langlaine, t'as vérifié, pour la demi-finaliste de l'an passé.
Ah bah oui, puisque l'an passé, elle avait fait 14-7.
Mathieu contre Jacques Mo
et central. Donc oui, non, je pense que c'est une bonne prog pour Loïs parce que alors, on ne sait pas comment ça se passe, mais on imagine Amélie est allée tâter le terrain, qu'est-ce que tu préférerais? Et je trouve que l'heure est bonne aussi, fin d'après-midi, avec il fera encore très chaud, donc ça veut dire que sa balle, on sait qu'elle, c'est une fille qui fait très très bien tourner la balle. C'est mieux que la night session, je trouve. Donc, c'est un match qui est hyper important pour sa carrière parce qu'on le sait, on a fait les projections. Si elle perd, elle sera aux environs de la 150e place mondiale. Mais attention, en face, c'est une cliente, Kalinskaya. Mais c'est une fille qui peut péter une durite si le public se montre parfait.
Un peu comme Mirandreva, c'est ça que vous voulez nous dire, monsieur Salio, tête de série numéro 22. Loïs, est-ce qu'il y a encore quelques... Il y a évidemment des points d'interrogation, même si ce qu'on a vu à Strasbourg nous incite à peut-être un peu plus d'optimisme, Sarah ?
Ouais, pour moi, c'est un grand, grand point d'interrogation. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un match de tennis, c'est une reprise. Elle revient sur les terres d'un exploit incommensurable. Elle manque de repères en termes de match, parce que tu peux jouer autant de matchs de préparation que tu veux, tu ne remplaceras jamais un match officiel. Et de ce qu'elle nous a dit, elle est à 100% que depuis très peu de temps. Même ses premiers tournois où elle a repris, elle ne parlait pas d'être à 100%. Donc, est-ce qu'il ne lui manque pas des heures de vol pour pouvoir être combative? Franchement, je ne sais pas. Mais si elle le fait demain, ce sera exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Être capable de revenir sur Roland-Garros, de gagner face à une tête de série avec toutes les attentes, tous... Parce qu'en fait, elle a explosé en termes de notoriété. Ça ne s'explique même pas, en fait. Et c'est vrai que si elle arrive à passer au-delà de... Enfin, je dirais que ce serait presque plus logique qu'elle s'incline. Mais si elle gagne demain, vraiment, c'est un gros, gros exploit. Et j'espère que tout son staff et elle y croient, parce que le public du Langlaine sera aussi avec elle. Et ça peut jouer. Mais le match, il va être un rebondissement parce qu'il lui manque des heures de vol. Donc, il va y avoir des moments où elle va enchaîner des cycles où elle va jouer instinctivement et puis des moments où elle va commencer à réfléchir. Enfin, il va se passer tellement de choses émotionnellement et psychiquement que voilà, la montagne va être pas évidente à gravir demain.
Et ce sera suivant troisième rotation sur le Langlaine pour Loïse Boisson face à Kalinskaya, tête de série numéro 22. On aura également Elsa Jacquemont et Diane Paris à suivre aujourd'hui pour les femmes. Et puis chez les hommes, je vous l'ai dit, Sinner Tabur, Müller Tsitsipas, Moïse Kouamé, on va en dire un mot parce que ce sera le premier match sur Simone Mathieu demain face à Marin Cilic. Évidemment de l'attraction, bon, faut pas mettre de pression aux gamins, Eric.
Non, il faut qu'il y aille, franchement. On se souvient que Richard Gasquet avait eu aussi une wildcard très jeune. Il avait perdu sur Costa, il est pris le premier avant de canner physiquement, ce qui est tout à fait logique. C'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui pour Moïse sur le Langlaine, parce que le Cilic est un mec qui a de l'expérience. Mais on sait qu'il a un potentiel énorme. Alors, on ne l'a pas trop vu depuis Monte Carlo. Il a fait Madrid, ensuite il s'est reposé, il a fait un petit tournoi en Italie. Bon. Mais sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, parce qu'il est passé vendredi au Media Day, il a hâte de y aller. Quoi. Puis, faut pas réfléchir, hein, faut y aller. Il a tout ce qu'il faut dans la boîte à outils pour faire mal à Cilic.
Oui, et puis il n'a rien à perdre. Il n'a vraiment rien à perdre. Donc voilà, ce sera aussi une première qu'il ne faudra pas manquer.
Et tout à apprendre, voilà, rien à perdre, tout à apprendre. Et on n'oublie pas également Corentin Moutet qui sera opposé à Kopriva. Et puis Thomas Forel face à Valentin Vacherot, qu'on a aussi envie de voir, le monégasque et cousin, évidemment, vous le savez, d'Arthur Rinderknecht. Merci beaucoup à Sarah Pitkowski, Eric Salio. Et puis on se retrouve évidemment très vite pour débriefer chaque jour Roland Garros dans cours numéro 1 en version quotidienne pendant cette quinzaine. À bientôt.
Ciao, ciao.
Petit coucou à Léandre quand même.
Petit coucou à Léandre. Le nouveau fils d'Anthony Reich, notre big boss à tous, qui est devenu papa en plein Roland-Garros. Il aurait pu l'appeler Gaël, hein.
Oui, mais bon, Léandre, c'est aussi le prénom du deuxième enfant de Pierre Garbert.
Et c'est le deuxième enfant, je crois, d'Anthony Reich. Donc voilà, on félicite.
Toutes nos félicitations à la maman et plein de courage au papa pour les prochains jours.
Et on les félicite.
Il y a de la chance, il a pu assister à l'accouchement. Moi, j'ai raté la naissance du premier. Pas de la première, pardon.
Teasing, tu nous raconteras cette anecdote parce qu'elle est savoureuse. Merci beaucoup et à très vite. Ciao.
RMC, cours numéro 1.